Stop, c'est parti.
Comment ça marche le journalisme?
Sur Twitter, Instagram.
On est dans un moment de grande confusion.
C'est votre dernier mot.
Bienvenue à tous et à toutes dans l'Instant M.
Quand on regarde une série, on sait que ça va se terminer.
Vous me spoilez?
Spoil.
On ne se ferme pas les yeux aussi facilement qu'on se bouche les oreilles.
Il a contribué à la chute d'Harvey Weinstein grâce au travail d'enquête de ses journalistes. Mais c'est aussi un magazine dans lequel on lit des blagues sur les dentistes, sur l'insomnie ou sur la vie en entreprise. Le New Yorker est un journal unique au monde qui mélange des articles très sérieux et des dessins humoristiques. Arrêtons-nous ce matin sur le versant dessiné de ce monument de la presse américaine. Car les cartoons du New Yorker sont à présent rassemblés dans un livre traduit en français, ouvrage monumentale, 1500 pages savoureuses, souvent hilarantes, encyclopédie en deux volumes, de A comme Adam et Ève à Z comme Zorro. Il fallait bien ça pour tenter de cerner l'humour du New Yorker. Est-il absurde ou pince sans rire? Aurait-il quelques touches d'humour noir? Quel rôle joue la légende, souvent très inattendue? Comment concilier les plaisanteries sur Trump et celles sur les chats? D'ailleurs, pourquoi y a-t-il autant d'animaux? Mais surtout, quel est le secret pour aussi bien croquer l'air du temps en n'étant jamais daté?
L'Instant M, Dorothée Barba, sur France Inter.
Le Père Noël est chez son psychiatre. Il est allongé sur un divan. Il n'a pas l'air dans son assiette, hein, pour tout vous dire, le monsieur à barbe blanche. Et voici ce que dit la légende. Il y a des jours où je n'ouvre même pas mon courrier. Un cartoon du New Yorker pioché au hasard dans cette énorme encyclopédie. Dessin signé Victoria Roberts. Bonjour Jean-Louis Chifflet.
Bonjour.
Bienvenue sur France Inter. Merci d'être là. Vous êtes écrivain, éditeur, grand amoureux de ce magazine depuis très longtemps. Et c'est vous qui signez avec Christiane Courbet la traduction et la adaptation de cette encyclopédie des dessins d'humour du New Yorker. D'abord, comment présenter ce journal hebdomadaire américain, presque centenaire, né en 1925, un magazine exigeant, sophistiqué, diriez-vous qu'il est un peu snob ?
Oui, je dirais qu'il est un peu snob. Vous savez, ce magazine va bientôt avoir 100 ans et on dit que c'est le magazine culte des intellectuels américains et la référence mondiale du dessin d'humour. Je me souviens très bien de cette phrase culte qu'avait prononcée un des fondateurs, qui était Harold Ross, qui disait en 1925, tout le monde parle du New Yorker, on dit que c'est le meilleur magazine du monde pour ceux qui ne savent pas lire. Et c'est vrai que moi, je suis un fan des dessins du New Yorker depuis des années, et je me suis battu pour qu'il soit édité en français, mais j'ai pas honte de dire que la première chose, et peut-être souvent la dernière chose que je fais, c'est de regarder la vingtaine de cartoons de chaque numéro. C'est donc un hebdomadaire qui est tiré à 3 millions d'exemplaires, qui n'était pas très connu en France. J'ai réussi à trouver un éditeur, en l'occurrence Les Arènes, qui a accepté de faire ce pari fou, parce qu'avant, pendant 20 ans, je m'occupais des droits étrangers d'Hachette, donc j'allais chaque année à New York voir les gens du New Yorker. J'ai vu plusieurs directions avant que ce soit celle de Condé Nast, qui me disait, mes chers messieurs, ce n'est pas traduisible, merci beaucoup, on vous écrira. Voilà.
Inexportable.
Et puis il y a 15 ans, ils ont craqué, parce qu'ils avaient besoin de faire une édition française, et voilà l'histoire.
On se plonge dans ce très gros livre dans un instant avec vous. Voici d'abord La fenêtre de la porte, comme tous les mardis. Bonjour Xavier de la Porte.
Bonjour Dorothée, bonjour à toutes et à tous.
Spécialiste de nos vies numériques. Alors, ça, c'est bien aimable, hein. En cette veille de Noël, vous avez un sujet de conversation à nous proposer pour les repas de famille.
Oui, et un sujet plus consensuel que les grèves, un sujet que vous pourrez dégainer quand tout le monde tombera sur le pauvre ado, neveu ado qui s'ennuie pendant le dîner et qui essaie de plonger dans son téléphone. Ce sujet, c'est celui de notre compétence numérique, que je pourrais formuler comme suit. Qui s'y connaît vraiment en Internet? Alors, il y a quelques semaines, le Pew Research Center, qui est un centre de recherche sur le numérique américain, a publié les résultats d'une étude sur la culture numérique des Américains qui pourrait nous servir de base et même donner lieu à une sorte de petit jeu. Alors l'étude visait à établir le niveau de connaissance des usagers en posant des questions assez variées comme quelle est la principale ressource économique des grandes plateformes ou alors qu'est-ce que c'est que la neutralité du net. Il fallait aussi être capable de reconnaître Jack Dorsey, le patron de Twitter, sur une photo, ce qui n'est pas très simple, ou savoir ce que ça signifie si vous vous rendez sur un site dont l'adresse commence par HTTPS et non pas par HTTP. Bon, alors les résultats sont intéressants.
C'est pointu, hein.
Ouais, c'est assez pointu parce que seuls 2% des interrogés ont tout bon. Et le nombre médian de bonnes réponses, c'est de 4 sur 10, ce qui n'est pas si nul, eu égard au fait que les questions ne sont pas si simples. Intéressant aussi, les résultats sont plutôt élevés quand il s'agit de savoir ce qu'est un cookie. Vous voyez, ce petit programme qui permet de nous tracer sur un site, hein, avec le côté positif qui est qu'il nous reconnaît quand on revient sur le site, on n'a pas besoin d'entrer à nouveau nos logins, etc. Mais le côté négatif, c'est qu'il enregistre toutes nos activités en ligne. Les gens savent aussi aussi très bien ce que c'est que le phishing, donc qui est une forme d'arnaque numérique qui peut intervenir partout, mail, texto, réseaux sociaux, etc. En revanche, ils sont plus approximatifs quand il s'agit de savoir à qui appartiennent WhatsApp et Instagram.
À Facebook.
Ouais, non, vous êtes forte, vous. Et donc, il semble y avoir une meilleure connaissance de ce qui relève d'une culture d'usage que d'une culture de l'écosystème en général. Alors, deuxième enseignement, il y a des différences assez nettes entre les catégories de population. Alors, ainsi, on trouve les meilleurs scores parmi les personnes les plus diplômées. Alors ça, il faut éviter de le mentionner
ouais,
pendant le repas de famille.
Table, ouais.
Mais l'étude montre aussi que les meilleurs scores se trouvent parmi les personnes âgées de moins de 50 ans.
Mais quelle surprise.
Eh, ouais. Les 18-29 ont 5 bonnes réponses en moyenne contre 3 pour les plus de 65 ans. Ça, vous pourrez donc l'utiliser pour défendre votre neveu.
Ah,
mais
voilà.
En creux, ça pose une question. Qu'est-ce que la culture numérique et comment ça se transmet? Parce que contrairement à la culture générale dont on sait à peu près comment elle se forme, on n'en a pas vraiment d'idée pour ce qui concerne la culture numérique. Sans doute la famille joue-t-elle un moindre rôle? Et encore, idem pour l'école, même si des efforts sont faits. Mais peut-être les médias ont-ils une responsabilité plus grande. Encore faudrait-il que les journalistes savent de quoi ils parlent. Donc, j'ai fait le test.
Voilà, il a fait le test.
Alors, j'ai eu 8 bonnes réponses sur 10.
8 sur 10.
Ce qui me situe dans les 12% les plus acculturés numériquement. Enfin, c'est normal, je suis payé pour le savoir. En revanche, j'ai répondu mal à 2 questions. Alors, la première sur la navigation privée. La question était à qui est cachée votre navigation quand vous utilisez la fonction navigateur privé de votre navigateur?
À tout le monde.
Et ben non, c'est-à-dire qu'elle est cachée à l'autre usager, mais pas au fournisseur d'accès.
Ouais.
Bon, voilà. Et la seconde, c'était sur la double authentification, c'est-à-dire que ce qui permet de vous assurer que vous vous connectez bien à un site. Et j'ai considéré comme double authentification des procédures qui n'étaient pas doubles. Voilà. Alors, j'en remarque que ces deux questions sont celles auxquelles les gens répondent le plus souvent faux, hein, ce qui fait de moi une personne très banale, pour ce que je savais. Mais je remarque aussi que ces deux questions sont du même registre, la vie privée. Ce qui est en fait mon problème avec le numérique, c'est que je suis victime d'une dissonance cognitive caractérisée. C'est-à-dire que, autrement dit, je sais que la question des données personnelle et de la vie privée est sans doute la grande question numérique du moment et c'est celle sur laquelle je suis le plus approximatif. Reste à savoir si ce sera aussi le cas des gens autour de la table de votre dîner de réveillon. Bon réveillon.
Merci Xavier Delaporte et voilà comment on va discuter de nos vies privées au repas de famille.
L'instant M, c'est aussi en vidéo sur franceinter.fr.
Les dessins d'humour du New Yorker sont mythiques. Ils sont réunis dans une encyclopédie épaisse, hein, traduite en français par Jean-Loup Chifflet, qui est mon invité ce matin. Un conseil de David Remnick, le rédacteur en chef, dans la préface de ce livre. Picorez surtout, mais ne lisez pas tout d'une traite. Ce serait compliqué, hein, Jean-Loup Chifflet, vu l'épaisseur du bouquin.
Oui.
6,5 kg à la pesée, c'est ça?
6,5 kg à la pesée, c'est la première fois. Alors, il faut dire que l'éditeur, qui est donc les éditions des Arènes, depuis 15 ans, a pris le risque de faire traduire des dessins du New Yorker. Alors plusieurs éditeurs, parmi les grands que je ne citerai pas, ont dit ça ne marchera jamais, ça c'était le grand mot. Et puis les Américains nous ont contactés il y a 2 ans en disant là on fait un énorme truc, on fait une encyclopédie, 2500 dessins, cartoon, à traduire, parce que l'ordre alphabétique américain, vous l'avez rappelé tout à l'heure, est un petit peu farfelu. Si vous voyez, par exemple, à la lettre L, vous avez aussi bien labyrinthe que laissez-moi passer, le lapin de Pâques, et autres private joke américaines. On a fait très attention avec Christiane Courbet, qui m'a beaucoup aidé parce que on travaillait de temps en temps devant un dessin, en se disant, ça pouvait durer une heure, en essayant de comprendre, et de faire la pirouette cacahuète pour que les Français arrivent bien à comprendre. Donc, le grand problème, c'était les faux amis. Et de temps en temps, on se trouvait devant un dessin en disant, pourquoi est-ce que c'est drôle? Parce que c'est ça. Alors, moi, maintenant, j'ai rencontré, au cours des signatures, des fans du New Yorker qui, de temps en temps, me demandaient pourquoi ce dessin est drôle. Il faut peut-être l'expliquer aussi.
Ça vous arrive de pas comprendre un dessin?
Bien sûr. J'ai relu il y a pas longtemps. Je veux pas vous dire lesquels. Il y en a un ou deux où je me pose la question.
Pourquoi c'est drôle?
C'est le nonsense. Vous en avez parlé tout à l'heure.
L'absurde.
C'est la grande différence avec la tradition française. Nous, la tradition française, c'est la tradition moqueuse avec Rabelais et puis Molière, etc. Eux, ils sont capables de nous faire rire uniquement avec des chats, des dinosaures et des choses comme ça.
Alors, les chats, les dinosaures.
Oui,
j'ai choisi un dessin de saison hein, pour démarrer tout à l'heure avec le Père Noël.
Oui, j'ai
beaucoup de vie de bureau aussi, de couple, d'éducation des enfants. Les piliers de bar sont un sujet récurrent. Finalement, le New Yorker est-il vraiment un magazine d'actualité, Jean-Loup Chifflet?
Alors, c'est une bonne question. Je vous remercie de m'avoir posé. Non, c'est pas un magazine d'actualité. C'est pour ça qu'il n'y a pas de dessin politique, parce que le principe, c'est de se dire que les dessins les cartoons politiques sont très vite dépassés. C'était un débat que j'avais souvent avec mon ami Cabu. Ils ont quand même une tendance qui est très nette, ils supportent les démocrates, mais vous avez surtout des nouvelles. C'est, par exemple, Truman Capote a publié...
Philip Roth également.
Et Philip Roth, il se battait, Salinger, il se battait pour être publié dans le New Yorker.
C'est une revue avant tout d'intellectuels.
C'est une revue d'intellectuels, et c'est vrai que les gens se précipitent, moi le premier, d'abord sur les cartoons.
Alors, pour se convaincre que la légende est un élément central de ces cartoons, il suffit de regarder les vidéos que le New Yorker poste régulièrement sur sa chaîne YouTube. Des personnalités se voient soumettre un dessin sans légende, et ils doivent en proposer une. Ici, c'est Danny DeVito, acteur et cinéaste, qui s'y colle.
I'm Danny DeVito, I'm doing the New Yorker cartoon caption contest. Okay, this guy looks like a Charles Dickens version of St. Peter, and this guy down here making his way into the, doesn't look exactly like very inviting, Pearly Gates. Okay, I know you're trying to keep people out, but if you find my hat, let me know.
Alors, on montre à Danny DeVito un dessin du New Yorker non légendé. Il doit donc inventer la légende. C'est Saint-Pierre à la porte du paradis, mais la porte est fermée et Saint-Pierre n'est pas franchement accueillant. Alors, le comédien a choisi comme légende. Je sais que vous ne laissez personne entrer, mais si vous trouvez mon chapeau, bah, dites-le moi.
Voilà.
L'exercice est compliqué. C'est bien la preuve que la légende est primordiale.
Oui. Alors, justement, à ce sujet, dans chaque numéro du New Yorker, vous avez à la fin un dessin qui n'est pas légendé. Et les gens écrivent et ils reçoivent à peu près 3 à 4 000 réponses par semaine, et vous avez un classement, le meilleur, le deuxième et le troisième. Et celui qui a été retenu par un petit jury gagne un abonnement d'un an. Je trouve ça formidable parce que c'est souvent extrêmement drôle, et moi je voudrais vraiment que l'idée soit reprise par un magazine français, parce que je trouve que c'est une formidable idée.
Légender ce dessin.
Légender des dessins qui sont souvent très difficiles à comprendre.
Le New Yorker aujourd'hui, Jean-Louis Chiffla, il est énormément lu sur écran et plus seulement sur papier. Est-ce que le dessin, le cartoon est aussi percutant sur écran que sur papier, à votre avis?
Je suis pas très écran. Moi, vous savez, je sais pas la différence entre YouTube et WhatsApp, mais ceci étant, j'ai fait des essais. Non, c'est très percutant. Simplement, moi, je suis très papier, donc je préfère la tradition papier. Ceci étant, je vois pas pourquoi ça serait pas aussi percutant sur écran.
Pour le public français, le New Yorker est associé à un très grand nom du dessin, Monsieur Jean-Jacques Sempé.
À peu près tous les dessinateurs humoristes appartiennent, à mon sens, à la famille du New Yorker. Le New Yorker avait été une bible pour la plupart des dessinateurs. Ça m'a permis de rencontrer toutes mes idoles. Ces gens qui m'avaient fait rêver tout le temps, je les voyais. Je parlais avec eux. Steinberg, Chas Adams, William Steig, et puis une quantité d'autres. J'aurais jamais osé leur proposer quoi que ce soit. Alors un jour, ils m'ont demandé. Alors là, j'étais très content.
Alors, certains lecteurs français seront peut-être déçus, Jean-Louis Chifflet, de voir qu'il y a seulement deux dessins de Sempé dans cette encyclopédie de 1500 pages.
Oui, c'est très intéressant parce que tout le monde me dit « Ah, Sempé, Sempé ». En réalité, Sempé a fait... D'ailleurs, il y a un bouquin formidable qui les réunit toutes, essentiellement les couvertures.
Voilà, il a fait la une. C'est très important de distinguer la une des dessins des pages intérieures.
Il est un des seuls dessinateurs français à avoir fait deux ou trois dessins à l'intérieur, je me souviens d'un en particulier. Mais alors, il y a eu d'autres Français, et c'est les seuls, qui ont fait aussi des couvertures. Vous avez Jean-Philippe Delhomme, vous avez le regretté Le Tan, et vous avez Flock.
Tommy Ungerer aussi, non?
Absolument, Tony Inger. Alors on me dit Sempé, Sempé, c'est vrai, mais il a fait. Il y en a un que j'aime beaucoup parce que je m'en souviens très bien. Je sais pas s'il est dans la nouvelle version.
Alors moi j'en ai un de 1981 dans un parc de New York.
C'est celui de...
C'est à la lettre J comme jogging dans l'encyclopédie. Un parc envahi de gens qui courent et puis un couple au milieu qui se promène, qui n'est pas en train de courir. La police s'arrête pour leur demander s'il y a un problème.
Voilà, c'est ça, un couple, genre monsieur et madame Lambert, les personnages typiques de Sempé. C'est formidable. Mais c'est vrai que on me dit toujours qu'est-ce que c'est que le nonsense. Alors le nonsense,
bah là, on y est en plein.
Bah oui, c'est pas une absence de sens, c'est une, il y a le nonsense américain qui est, on appelle ça l'overstatement, c'est exagéré, et puis vous avez le fameux understatement qui est plus british, c'est suggéré. Le nonsense du New Yorker, c'est vraiment l'exagération.
Sans doute la particularité de ce journal était liée à la façon de travailler. Je vais laisser Françoise Mouly l'expliquer.
Ah,
Françoise
oui.
Mouly, elle est française. C'est la directrice artistique du New Yorker. Autrement dit, c'est elle qui choisit le dessin à la une.
Alors, le New Yorker a la particularité d'avoir été le fleuron de la presse américaine et d'être un peu différent de tout le reste de la presse, dans le sens où il donne la parole à ses contributeurs, qu'ils soient artistes ou journalistes ou poètes ou écrivains littéraires, critiques de livres ou de films. Ce n'est pas l'opinion du magazine, c'est l'opinion de la personne qui dessine ou de la personne qui écrit, qui est mise en avant. Et c'est le summum de l'achèvement pour les artistes, pour les dessinateurs, d'être publié en couverture du magazine.
Voilà, dans la plupart des journaux et des magazines, on décide des sujets à traiter et ensuite on les illustre. Le New Yorker fait l'inverse. Ça change tout.
Oui. Alors Françoise Mouly, effectivement, est un personnage très très important au New Yorker. Mais maintenant, il y a une... Sous David Rebnik et François Mouly, il y a une jeune femme qui s'appelle Emma Allen.
Elle a 31 ans.
Elle a 31 ans. Elle a été considérée il n'y a pas longtemps comme l'une des femmes les plus importantes des États-Unis. Et nous expliquait que chaque semaine, elle doit choisir entre 800 cartoons pour en garder à peu près une vingtaine. Alors il y a d'abord un premier briefing où on se retrouve à 60, puis ensuite à 40, et le mardi c'est la grande réunion où entre les 40 cartoons, il faut choisir les 20 qui vont rester. Et bientôt, on pourra dire que ça sera aussi beaucoup plus de dessinatrices, parce qu'en 81, je crois qu'il n'y avait qu'une femme sur 41 cartoonistes habituels, donc il faut que ça change.
À la lettre C, comme censure dans cette encyclopédie, on trouve un dessin avec un homme devant une fenêtre en pyjama. Il est surpris par le message d'avertissement qui s'affiche sur sa vitre. Certains éléments du jour qui se lèvent sont susceptibles de choquer le jeune public. C'est dans l'air du temps, ça.
Mais oui, c'est dans l'air du temps. C'est extraordinaire parce que pendant, il y a eu 5 ou 6 ans, pendant un an, un grand magazine français, un grand quotidien français publiait des dessins du New Yorker. Et souvent, le maquettiste m'appelait en me disant, mais tu sais, le grand patron appelle, il n'a pas compris. Il n'a pas compris le dessin. Donc, il faut toujours faire un petit peu...
Un effort. Question obligatoire. Votre dessin préféré sur ces 1500 pages d'encyclopédie?
Alors j'en ai cité un tout à l'heure, et il y en a un autre qui est visible dans les librairies maintenant à Paris. Certaines librairies ont fait leur vitrine avec le New Yorker, et on a eu un choix entre nous, avec l'éditeur, de savoir qu'est-ce qu'on pourrait choisir pour que ces dessins soient, ce cartoon soit vraiment universel. Moi j'avais une suggestion, mais ce n'était pas universel. C'est un cartoon que j'aime beaucoup. On voit une page entière où on voit Woodstock 20 ans après, et on voit en dessous photo d'un cocktail avec des baisses beiges qui sont là avec des cigares. Bon, je trouve ça formidable, mais les jeunes ne comprendront peut-être pas. Finalement, on en a retenu un qu'on peut voir dans toutes les grandes librairies françaises actuellement. C'est le siège de Troyes, où au lieu d'avoir un cheval de Troyes, il y a des immenses grilles peints géants avec des soldats qui sont projetés comme des toasts,
ouais.
Oui, voilà. Et la légende dit, un jour, on l'utilisera à des fins pacifiques, voilà.
Le grippin de Troyes, pour terminer. Merci beaucoup, Jean-Louis Chifflet. Je rappelle le titre de cet ouvrage magnifique, The New Yorker, l'encyclopédie des dessins d'humour. Énorme bouquin en 2 volumes, traduction et adaptation, Jean-Louis Chifflet et Christiane Courbet. C'est aux éditions Les Arènes. Merci beaucoup et à bientôt sur France Inter.
Merci et bon Noël.
Bonne journée à vous.